à tous, vous êtes sur Globule Radio. Nous sommes partis en voyage de presse à Finhaut avec notre école, l'école Jacques Balma et Globule Radio. Nous avons pris le train à la gare de Chamonix pour arriver en Suisse et découvrir la vallée de Trient, en particulier autour du village de Finhaut. Chacun de nos membres de l'équipe va se présenter.
Bonjour, je m'appelle Adèle, j'ai 10 ans, je suis à l'école Jacques Balma à Chamonix. Je vais vous parler de la construction du barrage des Maussons.
Bon, hello, je m'appelle Loïse, j'ai 9 ans et demi, je suis à l'école Jacques Balma en classe de CM1. Je vais vous parler des traces de dinosaures au-dessus du barrage de Finhaut.
Yo, je m'appelle Lucien, j'ai 9 ans et devinez où je vais à l'école. J'habite au Pèlerin. Je vous présenterai une chanson de l'Eurovision.
Bonjour, je remplace Kimi, elle a 9 ans et elle habite au Pèlerin. Elle a fait un reportage sur les activités autour du barrage des Maussons.
Bonjour, je m'appelle Bastien, j'ai 10 ans et je suis en classe de CM1 à l'école Jacques Balma, comme mes camarades. Je vous parlerai tout à l'heure de la cabane du vieux Émosson.
Salut, je m'appelle Louis, j'ai 8 ans et je suis en CE2 à l'école Jacques Balma. Et vous allez écouter les Croates, l'heure de l'Eurovision, et qui s'appelle Mama, j'te.
Adèle, quelle personne Kimi a-t-elle rencontrée pour nous parler des activités au barrage des Maussons ?
Luc Pignat, directeur de l'office de tourisme. Elle lui a demandé quelles activités on pouvait faire autour du barrage des Maussons.
Oula, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. La plus impressionnante et la plus incroyable, c'est un parcours qui commence avec un funiculaire. C'est un train qui monte de manière très raide. D'ailleurs, c'est un des funiculaires les plus raides du monde. Ensuite, on change de transport, on prend un tout petit train panoramique, comme dans un mini train qui longe la montagne avec une magnifique vue sur le Mont Blanc. Ensuite, on reprend un petit funiculaire et on arrive au barrage des Maussons. Donc juste ce petit voyage, déjà, c'est une super activité. Ensuite, quand on arrive à Émosson, on s'accroche à une tyrolienne et on traverse tout le barrage en tyrolienne. Ensuite, on peut faire aussi de la randonnée pour aller justement voir des traces de dinosaures dans la montagne. Donc on peut aussi manger et boire, des fois il y a des événements, de la musique, donc c'est un endroit très beau dans la nature, avec un grand lac de montagne, un immense barrage et plein d'activités pour les petits et les grands.
Quels sont les horaires d'ouverture et de fermeture ?
Alors, pour arriver à Imosson, vous pouvez soit arriver à pied, on peut aussi y venir en vélo. D'ailleurs, on a eu la chance en 2016 d'accueillir le Tour de France, hein. C'est la plus grande course cyclisme du monde. On peut y venir avec justement le vertical Imosson, c'est-à-dire ses funiculaires, ses trains, ses funiculaires. On peut y venir en bus, on peut y venir en voiture. Donc, le site est tout le temps accessible, mais le mieux, c'est de prendre justement ce parc d'attractions, ce train, ce funiculaire. Là, ça ouvre le matin vers 9h et ça ferme le soir vers 5h.
Y a-t-il des campeurs qui viennent camper autour du barrage ?
Alors, quelques-uns, on voit surtout des gens venir avec des caravanes. Parce que la nuit, même en été, parfois, il fait un peu froid. Et puis, ça évite de croiser un loup qui vient nous manger pendant la nuit.
Y a-t-il beaucoup d'animaux sauvages dans le secteur ?
Ah oui, on a de la chance ici, les animaux se plaisent beaucoup. On a beaucoup de bouquetins et de chamois dans la région. Et puis sinon, il y a des alpages aussi avec des moutons. Et puis, comme je vous l'ai dit avant, on a des dinosaures.
La route est-elle déjà ouverte pour aller au barrage ?
Alors c'est une question qu'on nous pose tous les jours en ce moment. Signe que tout le monde se réjouit de retourner à Imosson. Mais il faut s'imaginer qu'à Imosson, c'est à 2000 mètres d'altitude. On est dans un secteur proche du Mont Blanc où on a la chance d'avoir beaucoup de neige en hiver. Donc à partir de la semaine prochaine, il y a des employés qui vont déneiger la route. Et normalement, autour du 15 mai, on pourra annoncer l'ouverture de la route sur Globule Radio.
Est-ce qu'il y a beaucoup de neige ? Est-ce que l'eau du barrage peut être gelée en hiver ?
Alors jusqu'à il n'y a pas longtemps, le barrage gelait. L'eau du barrage gelait et les gens l'hiver pouvaient le traverser avec des skis de randonnée. La glace était assez épaisse pour pouvoir le traverser. Mais depuis une année, on a un nouveau système pour produire de l'énergie, c'est-à-dire qu'on prend l'eau du barrage d'en bas pour l'amener au barrage d'en haut et puis on la fait redescendre et c'est là qu'on produit de l'énergie. À cause de ce flux d'eau qui bouge, la glace bouge et elle n'a jamais le temps de se geler suffisamment pour être assez dure. Donc malheureusement, on a pu produire plus d'énergie, c'est l'avantage de ce projet, mais malheureusement aujourd'hui c'est trop dangereux de traverser le lac en hiver parce que la glace n'est pas assez épaisse et puis on risque de se noyer.
Combien de personnes ont fréquenté le barrage pendant les vacances de Pâques ?
Alors pendant les vacances de Pâques, on peut dire que c'est pas grand monde, c'est surtout les gens qui font du ski alpinisme qui sont montés pour faire du sport d'hiver. Mais le secteur est fermé en hiver, c'est-à-dire qu'on peut visiter le barrage des Mossons uniquement de mi-mai, début juin jusqu'à fin octobre et ça représente entre 250 000 et 300 000 personnes.
Pouvez-vous nous dire des idées d'activités autour du barrage ?
Alors je les ai citées avant. Mais pour les enfants, pour les jeunes adultes, pour les grands-parents, la plus belle des activités, c'est de monter jusqu'au site en train, puis en funiculaire, puis en petit train, puis de nouveau en funiculaire. Et lorsqu'on arrive en haut, pour celles et ceux qui ont le courage, c'est s'accrocher au câble et traverser le barrage en tyrolienne.
Comment avez-vous eu l'idée de créer un sentier de VTT autour du barrage ?
Alors on n'a pas eu cette idée puisque cette idée n'existe pas.
A-t-on le droit de faire du cheval autour du barrage sur les chemins ?
Alors, j'en ai pas souvent vu. Le droit, je pense qu'il n'y a aucun souci. Mais forcément, il faut un cheval qui a le courage de monter jusque là-haut.
Quelle activité préférez-vous faire personnellement ?
Alors, moi, j'aime manger et boire. Donc, m'installer à Imosson, admirer le Mont Blanc et puis savourer une bonne tranche au fromage.
Bravo ! Super !
Merci à Kimi pour ton ce sujet. Je vous précise qu'évidemment maintenant sa porte, la route est ouverte. Et toi Adèle, qui as-tu interviewé pour parler de la construction du barrage ?
Alors, vous avez envie de remonter dans le temps ? Faites-le avec Nicolas à la rencontre de ce lieu historique.
Je m'appelle Nicolas Vouillot, j'habite Finhaut, j'ai toujours vécu ici à Finhaut. J'ai vécu la construction du barrage des Mossons quand ils ont commencé, j'avais 8 ans. Mon papa était le seul fignolin à travailler au barrage même. Et il y avait d'autres fignolins qui travaillaient ailleurs sur les différents chantiers qui concernaient le barrage. Mais au barrage même, mon père était le seul fignolin.
Quel est votre métier ?
Alors de base, je suis menuisier, mais maintenant je fais deux métiers. L'hiver, je suis responsable de la sécurité sur un domaine skiable au Marécotte, à la Creusat. Et l'été, je suis gardien de la cabane du Vieux-Mosson.
Quand le barrage du Mosson a-t-il été construit ?
Alors, je crois que les premiers coups de pic, c'est en 1968, et l'inauguration en 75. Voilà, 75.
Pourquoi le barrage du Mosson a-t-il été construit ?
Alors, il faut savoir que dans le barrage des Mossons, il y a un autre barrage qui a été construit en 1925, qui est à l'endroit où il se resserre. Il y a un éperon rocheux qui revient et qui ferme le lac, qui rend le lac plus étroit. Et en 1925, ils ont construit ce barrage pour alimenter le réseau CFF, les trains, uniquement les trains. Et après, ça a été le premier barrage construit en Suisse. Après, ils ont construit le barrage du Vieux-Mosson parce que les eaux, le bassin versant du barrage de Barberine était suffisant pour remplir le barrage. Et toutes les eaux du barrage du Vieux-Mosson étaient perdues. Alors l'idée qu'ils ont eue, c'était de construire le barrage du Vieux-Mosson, récupérer les eaux de là-haut. Et quand on commence à turbiner pour faire de l'électricité les eaux de Barberine, on maintient le niveau du lac à la même hauteur en faisant venir les eaux du barrage du Vieux-Mosson dans le barrage de Barberine. Et après, la technologie a fait qu'ils ont pu construire un barrage plus grand avec d'autres techniques et ils ont construit le barrage des Mossons en 1968, ils ont commencé.
Pourquoi le barrage des Mossons a-t-il été construit ?
Alors il a été construit parce que la demande d'électricité était de plus en plus grande. Tu sais actuellement qu'on est en pénurie d'électricité, période de grosses demandes d'électricité. Et à ce moment-là aussi, il y avait déjà une grosse demande pour l'électricité. Et vu qu'il y avait le potentiel pour construire là, ils ont fait ce barrage.
Qui a construit le barrage ?
Qui a construit ? L'entreprise, ça je ne sais plus les noms, mais c'est énormément d'Italiens qui sont venus travailler là. Ils faisaient 8-9 mois de travail ici sur place. Beaucoup d'Italiens du sud de l'Italie qui venaient là. Voilà. Les ouvriers qu'on construit, c'est énormément d'Italiens.
Avec quel matériau a-t-il été construit ?
Alors, il a été construit avec du ciment et des cailloux. Les cailloux, ils ont été pris sur la tête des Sigeurs qui se trouvent à la hauteur du barrage des Mossons. Ils ont concassé ces cailloux. Il faut savoir que dans un barrage, les cailloux, ce n'est pas du sable, hein, c'est des gros cailloux qu'il y a dans le béton. Et il faut savoir aussi que dans un barrage comme ça, il n'y a pas de fer. Il n'y a que du béton, que du ciment et des cailloux, c'est tout. Comme ça, le barrage, il est un peu élastique et il travaille. Il faut savoir que le barrage, quand il est plein, il avance de 18 cm.
Combien de personnes ont participé à la construction ?
Alors, ils ont construit un village là-haut pour les ouvriers. Il y avait autour des 1000 ouvriers qui travaillaient là-haut pendant la barrage. Après, il y avait différents ouvriers qui travaillaient à Trien, à Finhaut, à plusieurs autres endroits, partout où il y avait des galeries où ils ont été chercher l'eau. Donc, il y avait plusieurs chantiers. Mais je crois qu'il y avait autour des 1200 ouvriers en tout.
Qui a pris la décision de construire le barrage des Mossons ?
Alors ça, je ne sais pas te dire. Ça, c'est le Conseil fédéral. Je pense que c'est nos grandes instances politiques. Et si tu vas sur le barrage des Mossons, quand tu reviens sur la route, tu reviens en arrière, il y a un gros panneau qui explique quand il a été fait et par qui. Et quand il a été inauguré, il y avait le ministre suisse de l'énergie et le ministre français de l'énergie. Parce qu'il faut savoir que ce barrage, il est entièrement sur Suisse, mais le 50% de l'eau vient du bassin d'Argentière.
La construction a-t-elle été difficile ?
Oui, ça a été assez compliqué parce que en rive droite, la roche n'était pas bonne, elle était fissurée et ils n'arrivaient pas à colmater les fissures avec le béton. Alors si tu regardes, si tu as l'occasion une fois de voir les images pendant la construction, il était très haut en rive gauche et en rive droite, ça montait beaucoup plus lentement à cause de ces fissures qu'ils n'arrivaient pas à colmater. Mais maintenant, c'est bon.
Combien de temps la construction a-t-elle pris ?
Je dirais 4-5 ans.
Y a-t-il des réparations à faire parfois sur un barrage comme celui des Mossons?
Alors oui, là, à celui des Mossons, ils ont dû refaire à l'intérieur donc le parement amont, c'est-à-dire le parement qui est côté du lac. Ils ont dû refaire des joints parce que dans les bétons, il y avait des nids de gravier, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où il n'y avait pas de ciment, il n'y avait que du gravier et il s'effritait. Donc, puisqu'il ne tenait pas. Donc, ils ont dû refaire des joints pour reconsolider le béton. Mais ce n'était pas des gros travaux. Après, il y a des travaux d'entretien qu'ils font chaque année. Dans les galeries, il y a du salpêtre qui vient parce qu'il y a toutes des infiltrations d'eau. Et ces eaux, quand elles passent dans le rocher, elles déposent du salpêtre. Et toutes les années, l'hiver, quand il y a peu d'eau, quand tout gèle, ils vont casser le salpêtre et ils sortent le salpêtre.
Pourquoi le barrage s'appelle-t-il comme cela?
Parce qu'à l'époque, le plateau qui se trouvait au fond, Mossons. Pourquoi il s'appelle le plateau d'été Mossons, je ne sais pas.
Au fait, à quoi sert un barrage?
C'est une batterie, en fait. Dans ta voiture, tu as de l'électricité, ça... dans une batterie. Seulement l'eau, tu ne peux pas la stocker comme ça. Alors pour la stocker, il faut faire des barrages. Voilà, c'est une batterie pour produire de l'électricité. Quand tu as besoin, tu ouvres les vannes et tu produis de l'électricité. Et pour compléter, maintenant avec cette pénurie d'électricité qu'il y a, ils ont un nouveau projet là-haut. Ils vont peut-être hausser le barrage des Mossons de 10 mètres en plus, tu vois. Donc c'est pas fini les histoires d'eau à fin haut.
Merci Adèle, faisons une pause musicale. Voici Tatou, la musique qui ont gagné l'Eurovision cette année. Attention, ça va bouger!
Pour ton choix musical. Tout de suite, nous allons retrouver Loïse pour qu'elle nous parle de quelque chose d'incroyable.
des traces de dinosaures découvertes autour du barrage.
Merci Adèle, j'ai rencontré moi aussi Luc Pignat. Avant de parler des traces de dinosaures, j'ai voulu en savoir plus. J'ai commencé par lui demander quel est votre métier.
Je travaille à l'Office du tourisme de la Vallée du Trien.
En quoi consiste-t-il ?
Il consiste à accueillir aujourd'hui une école de jeunes enfants de Chamonix et leur faire découvrir toutes les belles activités qu'on propose dans cette région.
Quels sont vos horaires de travail ?
Alors, il n'y en a pas. Il y a des jours où je travaille toute la journée, toute la soirée et toute la nuit. Il y a des week-ends où je travaille. Et puis des fois, j'ai pas l'envie de travailler, alors je travaille pas.
Avez-vous une équipe ?
Oui, on est une petite équipe de 4 personnes. Toutes des personnes qui sont super motivées. J'en ai une juste à côté de moi qui s'appelle Cécile.
Votre métier est-il un rêve d'enfance ?
C'est plutôt un rêve de jeunesse. J'adore accueillir des gens, leur présenter la région, les activités qu'on propose. Parce que lorsque j'étais moi à l'étranger, j'aimais bien aussi faire découvrir et découvrir de belles choses que je connaissais pas.
Quand avez-vous fait vos études ?
Il y a très 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 longtemps, mais pas autant longtemps que les dinosaures. Mais il y a à peu près 30 ans.
Pourquoi avez-vous voulu faire ce travail ?
Parce que lorsque je vivais à l'étranger et que mes amis venaient me rendre visite, j'avais eu le plaisir d'aller découvrir plein de choses secrètes que personne ne connaissait. Et je leur présentais ces activités secrètes. Et maintenant que je suis de retour dans mon pays, je fais la même chose et je présente aux enfants de Globule Radio des choses secrètes comme le lynx du zoo des Marécottes.
Est-ce que ce sont des archéologues qui ont découvert les traces de dinosaures ?
Oui, ce sont des chercheurs, des scientifiques qui ont trouvé en 1976 ces traces de dinosaures.
À partir des traces découvertes, peut-on savoir de quelle espèce s'agit-il ?
Oui, il y a eu donc après les découvertes et des études qui ont pris quelques années, c'était quelque chose d'assez spectaculaire. Et au final, ils se sont rendus compte que les animaux qui ont laissé ces traces ne marchaient pas sur la pointe des pieds comme les dinosaures, les tyrannosaures, mais plutôt sur la paume des pieds comme nous. Et c'était pour ça qu'ils ne s'appellent pas des dinosaures, mais des archosaures. C'était des gros crocodiles.
À quel endroit ont-elles été découvertes ?
Elles ont été découvertes en dessus du lac du Vieux-Émesson à plus de 2500 mètres d'altitude.
Combien y a-t-il de traces environ ?
Ils ont compté jusqu'à 800 empreintes d'archosaures, les ancêtres des dinosaures.
J'ai lu qu'il n'est pas rare de trouver des traces de dinosaures dans les roches sédimentaires. Est-ce vrai ?
Oui, on peut dire que dans la région, il y en a beaucoup. C'est toute une... Sur une carte géographique, on pourrait tirer un trait et on pourrait refaire la balade de l'époque de tous ces dinosaures.
Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?
Parce qu'il y a très 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 longtemps, 240 millions d'années, il y a ces gros crocodiles qui marchaient le long d'une rivière. Ils ont laissé leurs traces dans le sable. Ensuite, le sable s'est durci puisqu'il a commencé à faire très chaud. D'autres couches de terre sont venues les protéger. Et ensuite, il y a eu ce que tu as peut-être appris à l'école, la tectonique des plaques. Les plaques continentales se sont entrechoquées et les montagnes se sont surélevées. Au final, ces traces de dinosaures qui étaient en basse altitude sont montées jusqu'à 2500 mètres d'altitude.
Comment peut-on visiter le site ?
Avec de bonnes chaussures et du courage, puisque depuis le lac des Meussons, il faut marcher 3 heures pour les retrouver et ensuite il faut redescendre pendant 2 heures.
Les enfants peuvent-ils venir ?
Les enfants sont les bienvenus. Ils vont croiser des dinosaures en montagne et puis faire des selfies avec eux.
Pouvez-vous nous dire comment les dinosaures ont disparu ?
Alors, je crois que ça s'est pas très bien passé. Selon ce que je sais, il y a eu des gros volcans qui ont recouvert le ciel de cendres. Il n'y avait donc plus de soleil, donc plus de nourriture pour les animaux. Et les animaux qui mangent cette nourriture ont disparu. Et comme les dinosaures mangeaient ces animaux, ils ont disparu aussi. Grosse catastrophe.
Merci, au revoir.
Merci Loïse, c'était très intéressant. Dans quelques instants, nous allons en savoir plus sur le refuge du Vieux-Émesson avec Bastien.
J'ai rencontré le gardien du refuge en Suisse. On dit refuge mais aussi cabane. Je lui ai demandé où se trouve la cabane du Vieux-Émesson.
Le refuge se trouve à 2182 mètres.
Pourquoi on appelle la cabane des Vieux-Émesson ?
Parce que l'alpage qui se trouve là-haut, sous le lac qui a été noyé, il appartenait à un monsieur qui s'appelait Monsieur Vieux. Et on a baptisé ça Vieux. Et puis quand ils ont construit Émesson, ils ont pris le nom du lieu, Vieux-Émesson. Et nous, quand on a construit la cabane, On n'a pas changé de nom, on a construit, on appelait ça la cabane du vieux Émosson.
Pourquoi étiez-vous gardien de refuge?
Alors, c'est un peu spécial. Le bâtiment qu'on a transformé, au départ, c'était les bureaux quand ils ont construit le barrage du vieux Émosson. Et pendant des années, ce bâtiment est resté fermé, personne ne l'utilisait. Et en 1990, je faisais de l'escalade là-haut avec mon épouse, Myriam. Au mois de décembre, il n'y avait pas de neige du tout. C'était très sec et les gens s'arrêtaient tous autour de cette cabane. Et nous, on grimpait, on est allé pique-niquer au bord du lac. C'était beaucoup plus beau au bord du lac. On ne comprenait pas pourquoi les gens s'arrêtaient au bord de cette baraque fermée. Et puis, c'est là que ma femme elle a eu l'idée de transformer cette cabane en refuge.
Ce métier est-il difficile? Pouvez-vous nous raconter une vie ordinaire?
Alors, une vie ordinaire, ouais, c'est un métier qui est difficile quand même, parce que les horaires sont très longs. Alors, on a des dortoirs, donc on a du monde qui dort là. On n'a pas beaucoup de lits, on a 22 lits. On n'est pas dans une région qui nécessite de se lever de bonne heure pour aller faire les courses, mais en général, on commence à 6h du matin à faire les déjeuners pour les gens qui dorment. Puis après, on a un petit moment de pause une fois qu'ils sont loin, et après, il faut préparer la journée. Les grosses journées, on peut faire entre 100 et 120 repas à midi. Plus le soir, il faut faire les repas des gens qui dorment là. Donc ça fait quand même des longues journées.
Avez-vous déjà vu des animaux sauvages comme des lièvres, des lynx?
Alors là-haut, on voit des lièvres variables. Ils sont rares, mais on en voit de temps en temps, mais c'est vraiment rare. On voit beaucoup des chamois en début de saison et en fin de saison, quand il n'y a pas trop de monde. Parce que dès qu'il y a du monde là-haut, les chamois ils s'en vont, ils sont très craintifs les chamois. Par contre, on voit énormément de bouquetins. Le bouquetin est un animal très curieux. Et là, on a beaucoup les mamans avec les jeunes qui viennent dans la région de la cabane. Une petite anecdote, l'automne 22, là, on a jumelé un gros mâle qui avait un comportement bizarre. Il restait toujours vers la cabane, mais vraiment un comportement bizarre. On l'a surveillé pendant une semaine et puis le dernier jour, on ne le trouvait plus. Comment ça se fait? Bizarre. En fait, il est décédé. Il est mort là, de vieillesse. 17 ans. Un gros, gros mal. Une grosse quoi.
Combien y a-t-il de personnes dans votre équipe?
Alors, à la journée, on est 6-7 à travailler. Un cuisinier, un aide de cuisine, un casserolier et puis des serveuses.
À quelle époque le refuge est-il ouvert?
Alors, ça dépend de l'enneigement. En général, à la mi-juin. Et jusqu'à la fin octobre, jusqu'à l'arrivée de la neige, jusqu'au retour de la neige.
Qui sont les gens qui viennent de votre refuge? Des familles, des randonneurs, des cyclistes, des grimpeurs?
Eh ben, on a tout ça. Tout ce que tu as énuméré, on les a tous. On a beaucoup des familles qui viennent avec des enfants, des jeunes enfants pour aller voir les traces des dinosaures, qui sont pas très loin. Et pour eux, c'est plus facile de venir en deux fois. Et puis pour les enfants, ben c'est spécial de dormir en cabane. On a des randonneurs qui font le tour du Ruan, ou le tour de la vallée du Trien, tour des Dents Blanches. Quelquefois, il y a d'autres randonneurs qui font des tours un peu spéciaux, et puis ceux qui font des balades à eux, quoi.
Le refuge est-il accessible en hiver?
Alors oui, il est accessible. Là, on a trois dortoirs, trois cabanes. Une des cabanes est accessible l'hiver, mais il faut réserver et il faut passer chercher la clé chez nous. Parce qu'on est propriétaire et il n'y a pas de local d'hiver proprement dit. Il faut juste réserver la clé, chercher chez nous la clé. Voilà.
Vous êtes toujours sur Globule Radio. Merci pour ces différentes interviews. Maintenant, c'est la deuxième partie du groupe des reporters de Finhaut qui va se présenter à vous. Yo, moi c'est Tom Tom. J'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. J'ai 10 ans. J'ai fait un reportage sur la tyrolienne d'Émosson, parce que, oui, il y a une tyrolienne.
Hello, je m'appelle Milia, j'ai 10 ans, et je vais vous présenter la salle d'escalade de Finhaut.
Et je vais également vous parler de la salle d'escalade de Finhaut.
Bonjour, je m'appelle Adem, j'ai 9 ans, je suis en CE2 à l'école Jacques Balma, et j'habite au Pèlerin. Je vais vous présenter également une chanson de l'Eurovision.
Bonjour, je m'appelle Béa, je suis en classe de CM1 et j'ai 9 ans. J'ai choisi de faire un reportage sur la salle d'escalade car je la trouve magnifique.
Et tout de suite, avant d'écouter les reportages de mes camarades, vous allez écouter Euphoria, les vainqueurs de l'Eurovision en 2013.
Adem, pour cette musique, Tom, tu vas nous parler de la tyrolienne du barrage des Maussons. À toi la parole.
J'ai commencé par lui demander en quelle année avait été construite la tyrolienne des Maussons, parce qu'il y a toujours une tyrolienne.
La tyrolienne est toute jaune, elle a été construite l'année passée, on était en 2022.
Quelles sont ses caractéristiques, longueur, hauteur ?
Alors, je viens de me renseigner parce que je soupçonnais que tu allais me poser cette question. La tyrolienne, elle fait 200 mètres de long et sous tes pieds, lorsque tu es au milieu de la tyrolienne, il y a 450 mètres de vide. Donc, il faut espérer que le câble, il résiste à ton poids.
Pourquoi construire une tyrolienne dans ce lieu sur un barrage hydroélectrique ?
On a la chance à Imosson d'avoir beaucoup de visiteurs qui viennent depuis longtemps pour les randonnées, pour faire le vertical Imosson. Et puis on a décidé d'ajouter une activité pour plaire surtout aux jeunes qui adorent les sensations fortes, l'adrénaline. Donc on a tout de suite trouvé notre public et puis c'est un super complément à Imosson par rapport à toutes les autres activités qui existent.
Avez-vous dû faire des études spécifiques pour gérer cette tyrolienne ?
Alors effectivement, il y a eu des études par des spécialistes pour savoir si le jour où Tom l'utilise, est-ce qu'elle va résister à son poids et à sa vitesse ou pas, parce que j'ai cru entendre que ce jeune homme faisait du saut à ski, alors justement, il sait aller vite dans les airs.
Quel entretien ou préparation faut-il faire sur la tyrolienne ?
Alors au début de chaque saison, il faut s'assurer que les poteaux qui soutiennent le câble soient solides, que le câble ne soit pas endommagé, que le matériel accroché, le boudrier autour des gens et des utilisateurs soit solide. Et lorsque tout ce matériel est contrôlé en début de saison, on peut ouvrir l'activité.
D'accord. Ce métier est-il difficile à exercer ?
Ah non, c'est plutôt un plaisir d'accueillir des touristes, de les équiper, de les accrocher au câble et surtout de les écouter toute la journée faire.
Savez-vous combien y a-t-il de visiteurs par année ?
Sur le site des Mossons, on a la chance d'accueillir 250 000 à 300 000 visiteurs. Et comme c'était la première année de la tyrolienne, on espère que tous ces gens qui viennent et reviendront utiliseront notre tyrolienne.
Pouvez-vous nous raconter une histoire qui vous passionne sur la tyrolienne ?
Alors, une histoire qui me passionne, c'est de voir le visage des utilisateurs passer d'abord du sourire, ensuite à l'inquiétude, ils deviennent un tout petit peu blancs, ensuite ils se jettent dans le vide, et puis quand ils reviennent, ils sont trop fiers d'eux, ils sont trop contents.
Yo, maintenant, Béa, Milia et Lucas vont vous parler de la salle d'escalade de Finhaut.
Lucas et moi, on est allés à la découverte de la salle d'escalade, qui est un bâtiment magnifique, tout en haut du village de Finhaut.
Comment vous trouvez cette salle ?
Très jolie et avec une vitre sur le devant qui donne sur les aiguilles rouges. En plus, elle est formée en bois et il y a à côté une aire de jeu pour les enfants. Et aussi, on peut la monter. C'était très dur parce que c'était long, c'était bien pour les sportifs, c'était pentu et il y a une vue majestueuse.
À quoi vous fait penser la forme de cette baie vitrée ?
Elle me fait penser à une forme de cristal. C'est super beau.
Nous avons hâte de rentrer dans cette salle d'escalade pour rentrer visiter. Et merci pour cette interview.
Vous me suivez, c'est parti. Moi, je trouve que la salle, on la trouve petite de dehors, mais dedans, elle est super grande. Tout de suite, à notre entrée, on trouve des rangements en bois pour ranger nos affaires, mettre les chaussures de côté. Et après, nous arrivons dans la salle pour commencer à grimper. Il y a différentes sortes de prises. Il y a plusieurs formes de difficultés.
J'observe la salle. Je trouve qu'il y a beaucoup de prises. Je dis qu'il y en a à peu près combien ? Je dirais qu'il y en a au moins 500. On dirait qu'il y a une espèce de cadenas sur le bloc. On dirait que ça mène à une espèce de conduit avec des tuyaux.
On a une sorte de cube sur le dessus pour s'entraîner, qui retombe. Et on a des matelas pour se protéger si on tombe, pour atterrir de 5 mètres à peu près.
5 mètres ? Non, pas vraiment. Environ
5 centimètres.
50.
Oui, 50 centimètres.
Voilà. Merci tous les deux pour cette visite. J'y étais et je confirme que c'était très bien expliqué. Et dernière surprise, Tom a rencontré Thomas, agriculteur, devant la gare de Finhaut.
Bonjour, je m'appelle Thomas.
Quel est votre vrai métier ?
Alors moi, des métiers, j'en ai plusieurs. Le dernier que j'ai appris, j'ai fait mon CFC à l'école d'agriculture à Châteauneuf. Et c'est pour ça que maintenant, je suis agriculteur à Finhaut. J'ai deux petits-enfants, un et deux, qui sont là. Une jolie femme qui est malheureusement pas là. Et sinon, on a fait une société avec mon frère qui, lui, est passionné de vaches. C'est pour ça que moi, je m'occupe des vaches et lui, il s'occupe des chèvres. On fait les gros travaux en commun, les fous. Et c'est pour ça qu'on arrive à vivre sainement à Finhaut en faisant de l'agriculture. Non, c'est-à-dire que moi, j'ai choisi d'être agriculteur à Finhaut. À la base, c'est pas mon premier métier. Moi, j'ai un autre parcours. Et en fait, j'ai décidé, il y a une dizaine d'années en arrière, une douzaine d'années en arrière, justement, de revenir sur Finhaut et de garder des chèvres. Parce que justement, j'adore la nature, j'adore être en liberté dehors. Et c'est un métier qui me permet, maintenant que j'ai une famille, de prendre mes deux petits bouts de chou avec moi. Et ça, pour moi, c'était vraiment important. Si je travaille dans un bureau à Martigny, je ne peux pas forcément les prendre. Et d'avoir justement les petits qui sont en contact avec la nature, les animaux, les fleurs, enfin, tout ce qui s'ensuit, pour moi, c'est un grand cadeau. Donc c'est pour ça qu'eux, ils viennent souvent avec moi. Je ne veux pas leur imposer. S'ils ne veulent pas venir, parce que je ne veux pas que ce soit une contrainte, je veux que ce soit pour eux un moment de liberté qu'ils apprécient. Donc si on les pousse tout le temps à venir garder des chèvres, ils ne vont pas être contents. C'est pour ça que s'ils y viennent volontiers, après peut-être, plus tard, ils auront l'envie de continuer. Mais je pense qu'ils aiment bien.
D'accord. Comment avez-vous fait pour avoir des champs ?
Bah, des chants, tu les vois pas forcément depuis ici, mais il y en a plein en fait. Que ce soit le petit village à côté qui s'appelle Gietro, ou bien sinon, nous maintenant, on a des chèvres qui sont vers le stand de tir, c'est un petit bout plus haut au sommet du village. Et donc là, il y a beaucoup de chants. C'est pour ça qu'on reste le printemps au sommet du village, et sinon, on va à l'alpage qui est juste en haut là, l'alpage de Fenestral, où on mène des vaches et des chèvres.
Comment gagnez-vous votre vie avec ces animaux?
Alors nous, la première rentrée financière qu'on a, c'est les paiements directs. Comme tu sais peut-être, là c'est la Suisse, le pays, qui nous donne des sous pour nous occuper des terrains. Sinon, on fait du lait et on fait aussi de la viande. Ce qui est bien, c'est que les vaches, elles font du lait, surtout l'hiver. C'est des vaches d'airain, celles les noires avec des cornes que tu vois des fois qui font des combats. Au contraire, elles font les petits le printemps et c'est pour ça qu'on a du lait l'été. J'ai ma chérie qui est fromagère, alors elle fait l'hiver le fromage de vache et l'été le fromage de chèvre qu'on vend ici un petit peu à Finhaut, en vente directe, ou sinon on va au marché à Martigny. Et sinon, puisqu'on parlait du lait, maintenant on peut parler un peu de la viande. Moi je garde des cabris, j'en garde, il y en a environ 50 qui naissent chaque année, j'en garde 4-5. Donc c'est pour ça que les autres ils vont à la boucherie et on peut vendre de la viande de cabri. Et sinon c'est la même chose pour les vaches. Les manger, on les vend. Enfin, c'est surtout mon frère qui s'occupe de ça, mais c'est difficile des fois de manger nos animaux, surtout pour lui les vaches, moi les chèvres ça va. Les enfants... Voilà, ça c'est le mauvais côté des choses, c'est que quand ils font des bébés, on pourra pas tous les garder. Moi j'ai 40 chèvres maximum que je peux garder pendant l'hiver, 40 chèvres que je traie, toutes les autres elles sont en plus. Donc c'est pour ça que je peux pas en avoir plus. Alors c'est pour ça que comme il y a à peu près 50 cabris par année, les vieilles chèvres on les met à l'abattoir, on en fait des saucisses et puis beaucoup de cabris aussi. C'est pour ça qu'on fait et de la viande et du lait.
Avez-vous une vache qui combat pour le combat des rennes?
Ouais, on en a plusieurs, mais ça c'est vraiment mon frère qui s'occupe. Toute la partie des bovins, c'est lui qui s'occupe, moi je m'occupe des caprins. Mais sinon, ouais, y a, la dernière fois au match cantonal, il y en a une qui a fait une sonnette. Elle s'appelait Baticha, enfin elle s'appelle Baticha. Et non, on aime bien, c'est une passion. C'est surtout mon frère qui est tombé dans la potion quand il était tout petit et il n'a jamais lâché l'affaire. Et c'est vrai que ça, c'est intéressant parce qu'on voit la force des animaux qui se tapent dessus, mais qui, en fait, ils se font jamais de mal, quasi.
Votre frère a déjà gagné plusieurs grands prix ?
Et on parle pas forcément de grand prix, on parle soit de combat de rennes, soit d'alpage en fait. Soit tu as une renne qui est dans un combat de rennes, un espace fermé, ou sinon c'est l'été, pendant 100 jours, elles vont à la montagne. Nous on en met à la Forclaz principalement, c'est la montagne, le pâturage qu'il y a quand tu vas en direction de Martigny. Et là, oui, mon frère a eu plusieurs fois d'affilée la reine de toutes les vaches, on va dire ça comme ça.
La vache qui est la nouvelle reine, elle peut participer l'année prochaine ou alors c'est fini?
Non, elles peuvent participer jusqu'à ce qu'elles sont très vieilles. En général, une reine, elle l'est peut-être pendant 2-3 ans parce que justement, les vaches, elles se connaissent. C'est comme toi, tu connais tous tes copains, les vaches, elles vont se reconnaître toutes entre elles. Donc si tu as été reine une année, l'année d'après, les autres, elles savent que tu es douée, donc elles viennent en général pas t'embêter. C'est pour ça qu'une reine d'alpage, comme on dit, c'est souvent 2 ou 3 ans d'affilée qu'elles peuvent être reines. Au contraire, des combats de reines que tu peux voir par exemple à l'amphithéâtre ou bien le combat cantonal qui aura lieu prochainement, où là, c'est chaque fois des vaches qui sont différentes. Et alors là, c'est pour ça qu'elles ne se connaissent pas entre elles, donc elles sont obligées de s'évaluer sur le jour même.
Mais quand la vache est trop vieille, qu'est-ce qu'elle devient ?
En général, on la garde jusqu'à ce que, si elle a été reine, ça veut dire qu'elle a une bonne génétique. Une génétique, ça veut dire qu'elle a un bon sang, elle a une bonne mentalité dans sa tête, et donc ça veut dire que ses veaux, ils seront certainement un petit peu pareils. Donc si c'est une petite vachette, comme on dit, elle peut peut-être, elle aussi, devenir reine. Donc c'est pour ça que les vieilles reines, ou les vieilles vaches, qui ont eu des bons résultats, on les garde jusqu'à ce qu'elles soient très vieilles, entre guillemets, et puis justement pour avoir des petits veaux. Et sinon, après, elles vont à l'abattoir et on les mange.
Finhaut est vraiment un lieu magnifique. Je vous conseille d'y aller. Merci à toute l'équipe. Tom, Loïse, Milia, Lucas, Adem, Bastien, Louis, Adèle, Lucien et Kimi.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Ce n'était bien sûr pas la voix de vos animateurs habituels,
mais la voix de la classe CM1, CE2 de l'école Jacques Balma, avec en premier groupe Vernaya, en deuxième Marécotte et en dernier Finhaut. Retrouvez-nous sur globuleradio.chamonix.radio sur la rubrique Mini Globule. Bonne journée à tous.